Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, cette fête des mères nous donne l'occasion de nous arrêter, de méditer, de considérer à quelle dignité le bon Dieu a élevé la maman. Quel est son rôle ? Rôle peut-être trop souvent peu apprécié. Eh bien, je voudrais aujourd'hui, en votre nom à tous, me présenter à toutes les mamans les meilleurs souhaits et les encouragements pour ce rôle qui n'est pas toujours facile de la maman. Le cardinal Pie disait à une mère, une seule mère, je ne reconnais rien qui m'émeuve, qui m'attendrisse davantage. Le chef-d'œuvre de Dieu, c'est la créature raisonnable. Et dans l'ordre de cette création, il n'y a rien de plus beau, rien de meilleur que la mère. Cette femme peut, par d'autres côtés, être une femme vulgaire. En tant qu'elle est mère, elle a presque toujours une grandeur, une abnégation, une distinction d'esprit et de cœur qui captive mon transport. Le Saint-Esprit lui-même aussi a de belles paroles. Voici ce qu'il nous dit dans le livre de l'Ecclésiastique. La grâce d'une femme fait la joie de son mari, et son intelligence répand la vigueur en ses os. C'est un don de Dieu qu'une femme silencieuse. Et rien n'est comparable à une femme bien élevée. C'est une grâce au-dessus de toute grâce qu'une femme pudique, et aucun trésor ne vaut une femme chaste. Le soleil se lève dans les hauteurs du Seigneur, ainsi la beauté d'une femme brille dans la maison bien ornée. Et le pape Pie XII reprend cette idée et poursuit en disant « Oui, la mère est le soleil de la famille. Elle en est le soleil par sa générosité, par son dévouement, par son aide infatigable et sa vigilante et prévoyante délicatesse à procurer tout ce qui peut égayer la vie de son mari et de ses enfants. Et le Saint Curé d'Ars aimait dire qu'on ne saurait jamais être assez reconnaissant pour les services que nous avons reçus d'une mère chrétienne. Dans combien de vies de saints on relève l'influence bienfaisante et déterminante d'une mère profondément chrétienne. Que chacun s'arrête un moment pour essayer d'entrevoir les bienfaits reçus de sa mère. Et après cela, on osera penser que ce n'est pas le plus beau des métiers, celui qui rapporte les plus belles richesses, celle d'une vie droite et chrétienne. Oh oui, chère maman, comprenez le rôle sublime. Et si vous pouviez vous rendre compte de ce rôle si sublime que vous avez à remplir, vous conviendriez combien votre présence au foyer est nécessaire. N'écoutez pas ces bruits mensongers du monde sorti droit de l'enfer et qui veulent vous sortir de vos foyers afin de disloquer les familles. Si l'on enlève le soleil, c'en est fini du monde. C'en est fini de la vie sur la terre. Si l'on enlève le soleil dans le foyer, c'en est fini du bon foyer. Et aujourd'hui, nous avons suffisamment d'exemples, suffisamment de cas qui se présentent pour nous rendre compte que c'est bien vrai. C'est dans le foyer, entouré de son mari et de ses enfants, que l'épouse, que la mère s'épanouit. Et cet épanouissement va consister dans le développement de ces facultés que le bon Dieu a mis en elle. Oui, l'épouse, la mère s'épanouit au foyer avec ses enfants et son mari. La maman est le soleil de la famille par la clarté de son regard et la chaleur de sa parole. Son regard et sa parole pénètrent doucement dans l'âme, l'attendrissent, l'affléchissent, apaisent le tumulte des passions et rappellent l'homme à la joie du bien-être et de la vie en famille, après une longue journée de labeur, parfois pénible. Son cœur de mère, les mouvements de son regard et les accents de ses lèvres créent et animent le paradis de l'enfance et rayonnent toujours d'une douce bonté, alors même qu'ils avertissent ou réprimandent. La maman est le soleil de la famille par sa digne simplicité. Dans le recueillement et dans la droiture de son esprit, dans la modestie de son vêtement. C'est l'ordre établi par Dieu. Plus nous nous appliquons à observer avec précision les plans de Dieu, les commandements de Dieu, plus en découlent les bons résultats, les bons fruits, l'harmonie, la paix, la joie, le bonheur. Regardez par exemple chez les animaux, voyez ces oiseaux. Les femelles, toute la peine qu'elles se donnent pour leurs petits oisillons, comme elles s'occupent pour les nourrir, pour les protéger, pour les défendre. Et l'on voit souvent, surtout en ces temps, les merlettes courir après les jets, voler après les jets, ou les chats pour les éloigner de leurs petits, pour éloigner le danger. Elles n'hésitent pas à s'attaquer à ces animaux, plus forts qu'elles, pour protéger ces petits. C'est l'ordre du bon Dieu, c'est l'ordre de la nature. Qu'y a-t-il de plus beau que de voir ces mamans tout occupées de faire aimer le bon Dieu à leurs enfants? Il n'était pas rare de voir autrefois ces mamans qui l'après-midi sortaient entourées de ses petits, poussant la poussette, allant faire une petite visite à Jésus au Saint-Sacrement, ou confier ses enfants à la Sainte Vierge Marie, les consacrer, leur faisant découvrir leur Père du Ciel, tout cet ordre surnaturel, en somme faire développer en eux cet ordre surnaturel qu'ils ont reçu au baptême, toutes les vertus de foi, d'espérance, de charité. Qu'y a-t-il de plus beau que cela? Et aux yeux de Dieu, y a-t-il une charge si belle que celle de la mère, puisque elle concourt à l'œuvre de Dieu? En mettant les enfants au monde, et puis en les éduquant. Il ne suffit pas de leur donner la vie, mais il faut qu'ils arrivent à la vie éternelle. Et c'est tout un art de conduire les enfants sur ce chemin du ciel. Alors il faut toujours reprendre les enfants. C'est une œuvre un peu ingrate. Il faut toujours rappeler les mêmes choses, chaque jour recommencer. Ce n'est pas toujours intéressant de faire des remarques, de reprendre, de corriger. On s'attire la mauvaise humeur, les ronchonnements, la désobéissance, tout ce que vous connaissez. Si l'on peut comparer un peu, eh bien, le travail de la maman, c'est comme celui de la racine. C'est un travail souterrain et pourtant si nécessaire pour la vie de l'arbre. Le travail de la maman est d'une importance capitale. Bien sûr, la plus grande part de l'éducation revient à elle. Certes, pour une éducation équilibrée, il faut le père et la mère. Cependant, la mère a la plus grande part. C'est elle qui a reçu ses facultés de découvrir, d'éveiller l'enfant, de comprendre l'enfant dans ses moindres gestes, de le conduire, de le reprendre. C'est elle qui a le plus de temps avec l'enfant. C'est un art, mais tout le soin qui est apporté à cet art, eh bien, rapportera des moissons abondantes. L'épouse récoltera ce qu'elle aura semé dans l'âme de ses enfants. Certes, il y aura beaucoup de renoncements, beaucoup de sacrifices, des épreuves, des douleurs. Mais la maman chrétienne sait très bien que cela, c'est la source des bénédictions du ciel. Alors qu'elle ne perde pas courage, au contraire, qu'elle se rende compte de ce rôle si important que le bon Dieu lui a donné, aussi des graves responsabilités, et que le mari sache aussi bien l'épauler dans cette tâche de mère, d'éducatrice. Le rôle de la maman est d'une grande importance pour la société. Si toutes les mamans s'occupaient de bien élever leurs enfants chrétiennement, la société deviendrait bien vite chrétienne. Si elle devient de plus en plus païenne, c'est que beaucoup ont abandonné cette belle tâche, cette belle mission de l'éducation. Elle a aussi un grand rôle pour l'Église. Que de vocations sont nées de mamans très chrétiennes qui ont su aider l'enfant à répondre à l'appel du bon Dieu, à leur donner les conditions nécessaires pour entendre cet appel et y répondre. Et aussi le rôle important de la maman pour le ciel, remplir le ciel d'élus. Alors aujourd'hui, eh bien, exprimons toute notre reconnaissance envers toutes les mamans, et tout d'abord la Très Sainte Vierge Marie. Tous les privilèges de la Très Sainte Vierge Marie viennent de ce qu'elle est mère, mère de Dieu. Eh bien, demandons-lui. Donc tout d'abord, félicitons-la, félicitons toutes les mamans, et puis demandons à Notre-Dame, eh bien, d'obtenir des grâces particulières pour toutes les mamans aujourd'hui, qu'elles sachent rester les soleils de leur foyer, qu'elles comprennent la tâche importante qu'elles ont à remplir et qu'elles puissent la remplir le plus parfaitement possible, qu'elles aient à cœur de conduire leurs enfants à connaître Dieu, à aimer Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Tout d'abord, permettez-moi de vous présenter tous mes bons vœux pour la nouvelle année, puisque nous commençons aujourd'hui une nouvelle année, l'année liturgique qui va nous faire vivre tous les événements, les principaux événements de notre Seigneur, ces mystères, ces saints mystères. Et comme nous entrons donc dans cette année, j'aurais voulu aujourd'hui vous entretenir un peu, bon, brièvement, car on ne pourra pas dire tout ce qu'il faut en ces quelques instants, sur la liturgie. Vous avez souvent entendu parler de ce mot liturgie, mais qu'est-ce que c'est? Pour certains, la liturgie représente quelque chose de très accessoire, ce secondaire à la vie chrétienne. Oui, oh, c'est... on peut s'en passer. Certains, quand on parle de liturgie, pensent aux ornements. Oui, on a des ornements. Le prêtre veut des ornements. Oui, ou les cérémonies sont en latin. Ou bien c'est le chant grégorien. Enfin, c'est une sorte de restauration de l'art ancien qui est capable d'intéresser que quelques amateurs d'antiquité. Pour d'autres, la liturgie, c'est une simple organisation du culte extérieur et public que l'Église rend à Dieu. C'est une vaste mise en œuvre de rubriques et de cérémonies qui ne concernent guère que les prêtres, les religieux. À ces derniers, on peut répondre que ce qu'ils considèrent dans la liturgie, eh bien, cela regarde le corps de la liturgie, ce qui est visible, ce qui est extérieur. Mais la liturgie, si elle a un corps, elle a aussi une âme qu'on ne voit pas, une âme invisible et qui, hélas, est trop souvent ignorée. Cette âme, c'est celle qui anime toutes ces choses extérieures, ces ornements, ces rites, ces chants, ces prières. Et elle est nécessaire, cette âme, de même que notre âme est nécessaire pour faire vivre le corps, pour animer le corps. Eh bien, cette âme, qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien, c'est la vertu que ces objets, que ces formules, que ces rites possèdent. D'une part pour glorifier Dieu, et d'autre part pour nous sanctifier. Don Guéranger, qui est un maître en liturgie, nous donne la définition suivante de la liturgie. Il nous dit que c'est l'ensemble des symboles, des chants et des actes au moyen desquels l'Église exprime et manifeste sa religion envers Dieu. La liturgie n'est pas une simple prière, elle est davantage. Elle est une prière publique, officielle, que le Saint-Esprit inspira à son Église. Cela nous donne déjà une plus grande estime de cette liturgie. Ce n'est pas les hommes qui l'ont faite, c'est le Saint-Esprit qui a inspiré. Et c'est pourquoi cette liturgie est toute divine. Cette prière fait participer authentiquement tous les membres du corps mystique du Christ au culte d'adoration infini que son chef, que le chef de ce corps mystique, notre Seigneur, rend continuellement à Dieu. Cette phrase est courte, mais très précise, et chacun de ces mots pèse. Elle fait participer authentiquement tous les membres du corps mystique du Christ au culte d'adoration infinie que son chef rend continuellement à Dieu. C'est la pleine réalisation de la parole que notre Seigneur a adressée à la Samaritaine au puits de Jacob. Viendra l'heure arrive où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et saint Anselme, qui commente ce petit passage, dit que les vrais adorateurs rendront à Dieu un culte filial dans l'Esprit Saint et en union avec le Christ, le Fils de Dieu. Et saint Paul, qui développe la même idée, dit dans sa lettre aux Hébreux, « C'est par Jésus que nous avons accès dans l'Esprit Saint au Père. » Toutes les formules que le prêtre dit à l'autel, le rosaire, la préface, le pater, le canon, etc., eh bien, toutes ces formules s'adressent au Père par le Fils, médiateur, et en l'unité du Saint-Esprit. Ce qui veut dire que sous la motion du Saint-Esprit, on s'unit au Christ comme homme, bien sûr, le Christ est médiateur en tant qu'homme, c'est-à-dire notre Seigneur Jésus-Christ comme prêtre pour honorer le Père en qui implicitement se trouve, bien sûr, toute la Trinité. C'est par le Christ que nous allons à Dieu. Et c'est pourquoi l'Église termine toutes ses oraisons par cette conclusion, par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui vit et règne dans tous les siècles des siècles, ainsi soit-il. Et cela peut déjà nous donner une petite idée de ce qu'est la liturgie et de comment nous devons considérer la liturgie. C'est plus qu'une simple prière. Saint Pidis nous dit que la participation active, il précise, participation active et non pas passive, comme faire acte de présence, donc la participation active au saint mystère et à la prière publique et solennelle de l'Église, eh bien, est la source première et indispensable du véritable esprit chrétien. C'est donc, mes bien chers fidèles, la participation à cette liturgie qui va nous faire chrétiens, qui va nous donner le vrai esprit chrétien, voyez. Et c'est pour avoir rejeté ce monument qu'est la liturgie qu'on en arrive à ce sentimentalisme que l'on rencontre beaucoup chez les charismatiques, où alors on se tient la main, puis alors on va tenir la main de la statue de la Vierge pour se communiquer. Vous voyez, on rencontre ça, mais très courant, très courant. On veut se remplir du Christ alors que la foi nous dit que par la grâce sanctifiante, on a la Trinité en nous. C'est tout autre chose. C'est du sentiment. Oh, il y a quelque chose. On ressent quelque chose. Vous voyez ? Ils ont plus cet esprit de la liturgie. Ils n'ont pas été formés à cette liturgie qui, elle, est sobre, mais qui nous conduit à une vision de foi des choses, qui nous édifie, voyez, et qui nous met en garde contre ces excès. La liturgie comprend tous les actes du culte divin. On peut même dire que la liturgie, c'est l'expression la plus haute et la plus sainte de la pensée, de l'intelligence de l'Église. Et donc, quel sera le but de la liturgie? Eh bien, je vous l'ai dit en passant, deux buts. Le premier, c'est de glorifier Dieu. Et donc, par la liturgie, nous le faisons d'une façon excellente, et la plus excellente, parce que c'est par Jésus lui-même, le Fils de Dieu, en qui le Père trouve toutes ses complaisances. Par la liturgie, comme je vous le disais, nous sommes unis à notre Seigneur pour adresser à Dieu le Père le culte qui lui est dû et que nous devons rendre. Nous avons un devoir de rendre à Dieu le culte qui lui est dû. Et bien, par la liturgie, nous sommes liés à notre Seigneur pour adresser à Dieu le Père ce culte. Donc, on ne peut pas faire de manière la plus excellente. Même si vous faites deux ou trois rosaires, ça n'a pas la valeur. Ça a une grande valeur, bien sûr, mais ça n'a pas la valeur de la liturgie parce que c'est une prière privée, les deux ou trois rosaires que vous pouvez faire. Tandis que par la liturgie, c'est une prière publique que notre Seigneur lui-même adresse. Et donc, nous sommes rattachés par cette liturgie à notre Seigneur pour adresser à Dieu le culte qui lui est dû. C'est magnifique. Le deuxième but de la liturgie, eh bien, c'est notre sanctification. La liturgie est la source la plus féconde des grâces de vie divine qui du Père se répandent par Jésus dans ses membres. Bien oui. À la messe, nous recevons les grâces autant que nous pouvons en recevoir, autant que nous nous sommes préparés. C'est par les sacrements que la grâce nous est obtenue d'une manière certaine, la Sainte Eucharistie, le baptême, la confession, etc. Et ça, ce sont des parties de la liturgie. L'Église a établi dans sa liturgie une méthode de sainteté, et qui a pour but, justement, qu'est-ce que la sainteté? La sainteté, c'est de nous unir toujours plus étroitement à Dieu. Voilà. Plus nous sommes saints, plus nous sommes près de Dieu. Qu'est-ce que c'est donc? La s'assimiler à notre Seigneur Jésus-Christ. Comme dit saint Paul, il faut que ce soit Jésus qui vive en nous, plus que nous vivions nous en nous, mais que ce soit le nouvel homme, l'homme régénéré par la grâce. Voilà la sainteté. Eh bien, la liturgie, justement, elle va nous assimiler de plus en plus à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est par le sacrifice de la messe et par le sacrement qui constitue l'essence même de la liturgie que l'Église sanctifie les âmes. Et donc, aussi l'Église, elle a un cycle liturgique qui comporte deux cycles qui ont comme sommet les deux plus grandes fêtes que nous avons durant l'année, qui, en somme, sont les deux grands mystères de notre religion. Le mystère de l'incarnation, la fête de Noël, et le mystère de la rédemption, la fête de Pâques. Eh bien, ces cycles, justement, tournent autour de ces deux grands événements. Le temps de l'Avent commence, justement, cette nouvelle année, ces quatre semaines de l'Avent. Et ensuite, il y a cette fête de Noël, avec son octave, où l'on reste à célébrer ces mystères de l'incarnation, du Dieu fait homme pour nous. Puis ensuite, on a ce temps après, le temps après l'Épiphanie, où l'on reste encore pénétré de ce mystère. Et le deuxième cycle, c'est le cycle de Pâques, qui commence avec la Septuagésime, qui est une préparation au temps beaucoup plus important, qui est celui du Carême, qui lui aussi nous prépare à cette fête de Pâques, à célébrer le plus dignement possible ce mystère de la rédemption. Puis on a encore l'octave de Pâques, où l'on reste dans ce mystère, à contempler, à remercier Dieu de cette miséricorde de nous avoir rachetés. Puis ensuite, le temps après Pâques, après la Pentecôte, qui découle donc de cette rédemption. Donc. Et l'Église, par ces cycles liturgiques, va nous rapprocher de notre Seigneur Jésus-Christ. Tout cela, par méthode, elle va nous faire célébrer ces événements de notre Seigneur, va nous les faire apprécier. pour nous faire toujours plus connaître notre Dieu.